Alors ça, c'est ce titre de la prédication donc d'aujourd'hui. Je l'ai tiré d'un partage biblique que notre frère Alexandre Lemay, que vous connaissez, m'envoie, comme à d'autres, je suppose, chaque matin, sous le titre « Passe le mot ». Hein, vous savez aussi. Ce sujet m'a vraiment interpellé, et il est dans le thème choisi par Sandrine donc, pour sa belle présidence, et j'aimerais le développer pour vous le présenter ce matin. Alors, comme... On va revenir dans l'actualité. Comme vous le savez, le robot américain Rover Perseverance s'est posé récemment sur Mars après un voyage de plus de 7 mois dans l'espace. Mars, c'est la planète du système solaire qui est la plus proche de la Terre. Et à coup sûr, il s'agit véritablement d'une prouesse technique humaine que de placer un robot donc sur la planète rouge. Et nous en sommes tous fiers en tant qu'humains. Mais quand on réfléchit, dans l'univers, il doit y avoir des millions de systèmes solaires. Autrement dit, nous sommes en réalité comme une simple goutte d'eau dans l'océan, comme l'a rappelé Sandrine. Or, dans la Bible, le roi Salomon, dans sa prière d'intercession à Dieu, s'écrit « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux et les cieux des cieux » ne peuvent véritablement le contenir. Ce que dit en somme Salomon, c'est que non seulement Dieu remplit l'univers, mais il le dépasse très très largement. Alors ça dépasse aussi notre imagination. Cette révélation de Salomon sur la grandeur de Dieu casse l'image caricaturale du Dieu grand-père, barbu, assis sur un nuage, quelque part dans les cieux. Ça, c'est, cette image-là, c'est en réalité l'homme qui s'invente un Dieu, qui se fait un Dieu à son image, à l'image de ses propres pensées humaines. Selon Jean 4, 24, Dieu est esprit et vérité. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, esprit et vérité? En fait, Dieu n'est pas un être surdoué, comme certains peuvent le penser, ni une entité glauque du genre fantôme, c'est-à-dire... c'est pas un esprit genre fantôme. Non, Dieu est esprit. Il est une puissance désincarnée, c'est-à-dire sans corps. C'est une autorité invisible qui remplit et domine la matière inerte et tout ce qui vit, respire et pense. Dieu dépasse de très loin tout ce que nous pouvons même imaginer dans nos pensées. Dieu, lui, il est sans limite. Il est. Voilà, je suis. Et il n'est limité par rien. Aucune limite dans l'espace. Aucune limite dans sa connaissance. Aucune limite dans sa sagesse. Aucune limite dans sa puissance. Aucune limite dans le temps. En réalité, Dieu n'est pas enfermé par les lois qu'il a lui-même créées. Il est transcendant. Ça, c'est la transcendance. C'est d'ailleurs cette transcendance qui lui permet d'être seigneur sur ce monde et juge de ce monde. Mais en même temps, Dieu est omniprésent, partout en même temps. Il n'y a pas un vide, pas un endroit, pas un espace où Dieu n'est. Dans le psaume 139, versets 7 à 10, il est marqué, enfin vous le connaissez, hein, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, eh bien là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. C'est incroyable, hein? Dans Ésaïe 44, versets 6 et 7, Dieu affirme son autorité et son éternité. Il dit... Moi, je suis le premier et le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Qui est semblable à moi? Qui le déclare donc? Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. Voilà ce que dit Dieu. Il n'y a rien d'autre que lui. Dieu est la seule autorité, le seul éternel, l'unique souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Dieu est aussi et surtout le Dieu créateur. Ésaïe 45, verset 12, il dit « C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu le ciel. » Dieu a tout, absolument tout créé avec autorité, intelligence, sagesse, mais aussi avec un esprit artistique, plein d'amour. Il aurait pu faire tout en noir et blanc, hein, mais il a mis des couleurs. Pour nous offrir une faune aussi variée, une flore de toute beauté et des paysages magnifiques. Non seulement Dieu est créateur, mais c'est aussi lui qui régit sa création. Psaume 104. Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts, la terre est remplie de ses bienfaits, c'est toi qui fais pousser le foin pour le bétail et qui fais prospérer les plantes pour les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et de la femme et fait resplendir son visage. Soudain, tu fais descendre les ténèbres et c'est la nuit. Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Ils demandent à Dieu leur nourriture, mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour son ouvrage qu'il poursuivra jusqu'à la nuit. Dieu pourvoit. Il subvient aux besoins du monde animal, végétal et aux besoins des hommes. Il agit avec ordre et intelligence et donne selon sa volonté. Psaume 115, verset 3, le rappelle. Notre Dieu est au ciel, il fait absolument tout ce qu'il veut. Dieu est à l'origine de tout. Il est partout, mais en plus, il peut tout. Dieu est tout-puissant et rien ne peut limiter sa puissance, contrairement à l'homme. Matthieu 19, 26. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ça, il faut qu'on se le rappelle. Non, rien n'est impossible à Dieu. Il peut intervenir en transcendant les lois de notre monde, auxquelles il n'est pas lié. Alors, on peut attendre de lui des miracles, attendre de lui qu'il agisse au-delà de nos propres espérances. Dieu n'a aucune limite à sa puissance. Il est le Tout-Puissant, Shaddai en hébreu, El Shaddai. Apocalypse 1, 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, je suis le Tout-Puissant. » Dieu est Tout-Puissant et sa seule limite, c'est celle de sa volonté. Il peut faire, par exemple, trembler la terre. Amos 9, verset 5, « L'Éternel touche la terre et elle tremble. » Et ça, il peut même arrêter la course du soleil. S'il le veut. Josué 10, verset 12. Ce jour où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria « Soleil, arrête-toi sur Gabaon !» Le soleil s'arrêta. La lune suspendit son cours jusqu'à ce qu'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y eut de jour comparable à celui-là où l'Éternel a écouté la voix d'un homme. Vous vous rendez compte? Vous imaginez le soleil qui s'arrête? Mais Dieu peut aussi guérir les malades et même ressusciter les morts. Jean 11, 39. Lazare était mort depuis plusieurs jours. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur de Lazare, lui dit « Seigneur, il doit sentir, cela fait déjà 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta la pierre et Jésus dit « Père, tu as exaucé ma prière. » Et il cria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Et le mort sortit du tombeau. Si Dieu est tout-puissant, il n'est pas un être impersonnel, une force agissante. Il se présente à nous comme quelqu'un d'incomparable, quelqu'un qui a une volonté, des sentiments aussi, un caractère, une personnalité, quelqu'un qui veut nous rencontrer et créer une vraie relation avec l'homme. Et je pense ce matin à 1 Roi 19, verset 12. Dieu s'adressa à Élie dans la grotte à Horeb. L'Éternel lui dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant moi. » Et voici, l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Puis il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Ensuite, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage, car c'était l'Éternel. Dieu est tout-puissant, d'une puissance incroyable. Il peut nous écraser, il peut aussi nous anéantir s'il le veut. Et pourtant, il peut aussi se présenter à nous dans une douce et sympathique présence. À l'époque de Noé, il a submergé la terre sous un déluge d'eau. À l'époque d'Abraham, il a détruit par le soufre et le feu les villes de Sodome et Gomorre. À l'époque de Josué, il a fait tomber les gigantesques murailles de Jéricho qu'on ne pouvait pas faire tomber. Mais il a aussi, par la venue et la mort de son fils sur la croix, ouvert aux hommes la réconciliation avec Dieu et le salut éternel, ce qu'a rappelé Sandrine ce matin. Dieu est à la fois un Dieu terrible qu'il faut craindre, mais aussi un Dieu doux et sensible de qui on peut vraiment s'approcher. Cette présence toute-puissante de Dieu dans l'univers, sa présence intelligente dans les perfections de la nature, devrait pousser l'être humain à le reconnaître comme son autorité, à s'approcher de lui pour recevoir protection et bénédiction. Mais au lieu de cela, eh bien, la plupart des gens le rejettent et nient même son existence. David, dans le psaume 14, versets 1 à 4, écrit « Les insensés pensent que Dieu n'existe pas. Les incroyants, toutes celles et ceux qui refusent l'existence de Dieu, prétendent que nous sommes le fruit du hasard, que nous provenons d'une poussière cosmique, et tout cela se prive de la présence de leur Créateur, de son aide et de son soutien. » David traite ces personnes d'insensés. En refusant de reconnaître Dieu, c'est comme si un homme, par exemple, rentrait dans une galerie de peinture, admire les toiles qui sont sur le mur, et dit « Elles ont dû certainement pousser pendant la nuit. Elles se sont créées toutes seules. La nature fait super bien les choses. » Imaginez, chers frères et sœurs, quelle serait la tête des artistes qui entendraient de telles réflexions. Même un grand athée comme Voltaire exprimait dans un bel élan de sincérité tous ses doutes sur la non-existence de Dieu. Il disait « L'univers m'embarrasse, car je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Si un grand nombre d'êtres humains a rejeté Dieu, eh bien certains autres l'ont reconnu, accueilli, en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu sauveur. Jean 1, 12, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce privilège, frères et sœurs, nous a été accordé en Jésus-Christ. Et ce matin, nous pouvons en cœur confesser par un « Amen » puissant que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais ce privilège n'est pas le seul, car nous avons à présent par Jésus-Christ un libre accès au Père. Éphésiens 2, 18. Grâce à lui, nous avons accès les uns les autres auprès du Père par le même Esprit. Bien plus, frères et sœurs, nous avons part aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, à l'héritage du Père. Galates 4, versets 6 à 7. Puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave du péché, mais fils. Et à ce titre, eh bien, tu es héritier des biens promis. Ben oui, frères et sœurs, nous sommes héritiers des biens du Père. ils sont à nous, ils nous appartiennent, on peut se les approprier. Dieu, nous l'avons vu, est fort et tout-puissant. Cela fait partie de l'héritage qu'il nous laisse. Nous, nous sommes faibles. Nous sommes fragiles, nous sommes limités, nous sommes pleinement humains. Alors nous venons vers Dieu avec nos insuffisances. Nous venons aussi avec nos blessures anciennes, nos craintes, nos peurs et nos soucis. Et Dieu qui voit tout, il voit nos faiblesses. Hébreux 4,15. Nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un grand prêtre qui se sent touché par nos faiblesses, car il sait ce que c'est que d'être faible. Il le sait parce qu'il est venu sur terre. Le prophète Ésaïe confessait déjà en son temps, Ésaïe 45,24, « En l'Éternel seul réside la force », avant d'avouer en 49,5, « Mon Dieu est ma force ». Son témoignage nous montre que l'on peut s'approprier l'héritage du Père, que c'est en Dieu Tout-Puissant que nous pouvons puiser notre force. Éphésiens 6,10 le dit clairement. « Puisez votre force dans le Seigneur et fortifiez-vous par sa force toute-puissante. » C'est ce que disait l'apôtre Paul. Est-ce que nous le faisons ? Déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe nous invitait à le faire. Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez, venez, voici de l'eau. » Dieu nous offre de puiser de son eau salvatrice, fortifiante. Il nous invite à boire de l'eau de son esprit. Comme d'ailleurs Jésus l'a rappelé à la femme samaritaine, rappelez-vous, Jean 4, 13. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. » Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères, sœurs, approchons-nous de Dieu. Marchons par l'Esprit, venons puiser dans l'eau de sa parole. Dieu veut nous fortifier, nous qui sommes faibles. Il donne, il pourvoit en abondance pour celles et ceux qui s'approchent de lui. Le psalmiste David, dans le psaume 65,10, affirmait avec force « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau ». Approchons-nous de Dieu en pleine confiance, par des moments intimes, quotidiens, pour être fortifiés dans nos faiblesses. Mais peut-être ce matin, pensez-vous, c'est bien Daniel ce que tu nous dis. Ça, on le sait, c'est de la théorie. On pratique, on essaye, mais on n'y arrive pas. Nous avons toujours les mêmes problèmes. Est-ce que vous pensez un peu cela ce matin ? Je vous laisse. J'ai la volonté, mais le résultat est bien décevant. Alors, si vous le permettez, je vais exceptionnellement ce matin vous offrir une petite BD. Connaissez-vous ce personnage dont le prénom est Bob ? Connaissez ? C'est Bob l'éponge. Alors, je vous présente son frère qui est un chrétien converti, né de nouveau, chrétien l'éponge. Il est radieux, chrétien l'éponge. Il est dans la joie car il connaît Jésus qui l'a sauvé en mourant sur la croix, en prenant sur lui ses péchés. Il a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Pourtant, sa vie chrétienne connaît des hauts et des bas. Surtout quand il passe par des moments difficiles, lorsque les soucis le submergent et que les épreuves l'assaillent. Il pense que Dieu l'oublie ou que Dieu l'abandonne. Chrétien l'éponge entend lors d'une prédication avant d'œuvre qu'on peut venir puiser de la force en Dieu. Lorsqu'on est faible, en rentrant chez lui, il essaye de mettre en pratique ce qu'il a entendu. Mais il n'y arrive pas, ça ne marche pas. Alors chrétien l'éponge est découragé. Il s'interroge, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ? Alors il vient au pied de la croix, prie Jésus et lit dans la Bible ce passage de la première lettre de Pierre. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Alors il voit cette image. Comment une éponge gorgée d'eau peut-elle encore absorber de l'eau? Alors ce matin, je vous ai fait tremper une éponge. C'est impossible de la remplir plus. C'est pas possible. Comment un chrétien rempli de soucis, de craintes, d'amertume, de blessures, peut-il se remplir de la force de Dieu s'il ne se décharge pas auparavant? Alors, chrétien l'éponge prend la décision de se décharger sur Jésus. Il confesse ses péchés, il lui confie ses peurs et ses soucis, mais rien ne se passe. Il se souvient alors de la présidence de Nadine et ce dessin qu'il avait fait tant rire à l'époque. Vous vous souvenez? Ce chrétien qui vient se décharger sur Jésus de tous ses soucis, les dépose à ses pieds, lui confie son fardeau et repart avec. Soudain, chrétien l'éponge comprend que certains chrétiens arrivent à se décharger alors que d'autres ont besoin de se faire aider. Et il n'y a aucune honte à se faire aider, puisque nous sommes faibles. Et chrétien l'éponge trouve dans l'Église des frères et sœurs dont le ministère est d'aider celles et ceux qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à se décharger véritablement sur Jésus. Chrétien l'éponge s'est fait aider. Et maintenant, il a réussi à décharger son cœur des fardeaux qui faisaient obstacle à sa relation avec Dieu. Maintenant, il est prêt à venir puiser sa force dans la puissance de Dieu. Chrétien l'éponge comprend que c'est surtout lorsqu'il se sent faible qu'il a le plus besoin de la force de Dieu. Aussi, quand le feu de l'épreuve touche chrétien l'éponge, la peur s'empare de lui. Il sait que ça va être dur à supporter. Et le temps que ça va durer ne dépend pas de lui. Alors il prie intensément, mais l'épreuve ne s'arrête pas. La première pensée, la première réaction de chrétien l'éponge est de se demander « Seigneur, quel mal ai-je commis pour vivre une telle épreuve ?» Vous vous posez aussi la question des fois? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur ? Chrétien l'éponge va prier avec Jean-Haut, son pasteur, qui lui explique qu'une épreuve n'est pas une punition, mais une situation de faiblesse que le Seigneur nous impose pour nous faire grandir. Jacques 1:3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, chrétien l'éponge repense à ces deux héros bibliques qui ont toujours été un exemple pour sa vie spirituelle, David et l'apôtre Paul, qui ont traversé, eux, des épreuves en s'appuyant sur la force toute puissante de Dieu. Ça, ce sont des exemples pour lui. Chrétien l'éponge relit et médite la vie du roi David, et il tombe sur ce passage d'Actes 2, versets 25 à 28, que je vous invite à méditer, et dans lequel David exprime sa foi débordante. Et c'est Pierre qui reprend ces paroles de David, pour parler aux Juifs. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. » Bien sûr, David, il ne voyait pas Dieu, comme nous, on ne le voit pas, Dieu, puisqu'on ne peut pas voir Dieu. Il le voyait avec les yeux de la foi. Il était sûr de sa présence, convaincu de son aide et de son soutien constant. Ce témoignage encouragea chrétien l'éponge dans son épreuve. Rempli de la foi de David, chrétien l'éponge décide de traverser son épreuve en s'appuyant sur la force que lui donne son Dieu. Il traverse la vallée des pleurs sereinement, sachant que, comme pour David, son Dieu ne l'abandonnera jamais, même dans l'épreuve. Il se souvient de la phrase de Jésus, Matthieu 28:20, « Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous accompagne, je suis présent, je suis là. » Et tous ceux qui pensent que dans l'épreuve, Dieu n'est pas là, c'est faux. Dieu nous accompagne. À présent, et pour finir, Chrétien l'éponge traverse une épreuve physique douloureuse. Il y a peut-être des gens dans l'Église qui traversent des épreuves douloureuses physiquement. Il souffre d'une maladie. Des frères et sœurs chrétiens encouragent Chrétien l'éponge en pensant lui faire du bien. Il lui dit, prie, crois que Dieu va te guérir et tu seras guéri, car Dieu ne laisse pas ses enfants dans la souffrance. Alors plein d'espoir, Chrétien l'éponge fait à Dieu une prière fervente. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. S'il te plaît, délivre-moi de cette épreuve. Chrétien l'éponge, malgré sa foi exemplaire, ne sera jamais guéri. Il aurait pu penser que si Dieu n'a pas exaucé sa prière, c'est parce qu'il a manqué de foi, ou que Dieu ne l'aime pas. Heureusement, Chrétien l'éponge se remémore le passage de 2 Corinthiens 12 qu'il a lu lors de son culte personnel. Il se souvient que l'apôtre Paul décrivait son épreuve physique en ces termes. Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Cette souffrance lui était imposée, non par un Dieu sadique qui voudrait le punir ou lui faire du mal, mais par un Dieu compassionnel qui cherche à le protéger. Verset 7, Dieu m'a imposé cette épreuve pour me préserver de l'orgueil. Chrétien l'éponge se souvient que Paul a prié trois fois le Seigneur, comme lui, il l'a fait, pour qu'il le délivre de cette épreuve. Et le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. » Dieu rappelle sa seigneurie, c'est lui le maître. Tantôt il guérit, tantôt il ne guérit pas. Il le fait selon sa volonté. Nous, nous sommes et restons sous sa grâce, la grâce de son amour. Chrétien l'éponge comprend que Dieu nous rend faibles pour que nous cherchions en lui aide et réconfort. Il comprend que lorsque nous sommes humainement forts, eh bien nous nous appuyons davantage sur nos capacités humaines que sur Dieu. Voilà, quand nous sommes forts, rappelez-vous ça, on s'appuie sur nos propres forces et pas sur Dieu. Et voilà pourquoi, comme Paul, Chrétien l'éponge peut s'écrier, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est cette puissance, cette présence de Dieu qui aide Chrétien l'éponge à traverser les épreuves de la vie sereinement. Dieu le porte sur le dos de sa main puissante et le protège comme il a protégé le prophète Daniel et ses compagnons de la fournaise ardente de l'épreuve. Daniel 3:27, tous constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Frères, sœurs, reconnaissons-nous que la puissance de Dieu constitue notre force dans toutes nos faiblesses. Frères, sœurs, est-ce que nous acceptons même nos faiblesses? Est-ce que nous acceptons d'être faibles? Les voyons-nous comme une occasion d'être fortifiés dans le Seigneur? En conclusion, pouvons-nous, comme Paul, proclamer « C'est lorsque je suis faible que par la grâce de Dieu, je suis réellement fort. » Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vais prier pour ce moment. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, tu es un Dieu, j'arrive même pas à imaginer, Seigneur, ta puissance. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, je pense que, Seigneur, tu es au-delà de cela. Tu es un Dieu d'une puissance incroyable. Et pourtant, tu t'es abaissé jusqu'à nous. Et tu permets, Seigneur, que cette force qui est en toi, eh bien, elle puisse être aussi en nous. Seigneur, merci de nous donner des moments de faiblesse pour que nous puissions nous appuyer sur toi et non sur notre propre force. Merci, Seigneur, de nous faire passer les moments d'épreuve avec ta présence et en sachant, Seigneur, avec les yeux de la foi que tu es là, que tu nous accompagnes. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs, que chaque jour, comme moi, Seigneur, nous puissions entendre ce message et nous rappeler que toi, Seigneur, tu es notre force. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.